Et sur Radio Shalom, nous sommes avec Sylvain Attal. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors, comme chaque semaine, nous allons tenter de comprendre comment va le monde. Et cette semaine, Sylvain, vous vous arrêtez sur la question des migrants et de l'asile, un sujet qui engendre de plus en plus de crispations dans l'opinion publique.
Oui, on a beaucoup parlé cette semaine de l'évacuation musclée de plusieurs centaines de migrants de la place de la République à Paris. Alors, on s'est attardé sur les violences policières, qui est un réel sujet de préoccupation, documenté par les vidéos prises par des journalistes et par des témoins. On a souligné qu'il s'agissait en fait d'un happening qui avait été organisé par des associations d'aide aux migrants, comme disent certains des activistes, par exemple Utopia 56. Pour les mêmes, il s'agit d'une provocation, d'un piège dans lequel la police serait tombée. On a aussi vu dans ce lamentable épisode la preuve que les captations des interventions policières sont indispensables à l'information des citoyens sur ces violences, et donc que le fameux article 24 de la loi Sécurité globale, qui vient juste d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, représentait potentiellement une entrave grave à la liberté de l'information. En effet, même si cet article ne concerne que les prises de vue qui ont manifestement, dit le texte, le but de mettre en danger les policiers, cette intention sera laissée à l'interprétation des mêmes policiers. Et comme la démonstration en a été faite avant même le vote de la loi, les policiers en feront une interprétation assez large, ce qui veut dire que des journalistes seront de plus en plus souvent interpellés, voire placés en garde à vue, alors qu'ils ne font qu'exercer leur métier. Ce sera encore plus vrai pour de simples citoyens ou des lanceurs d'alerte. Et comme l'a pronostiqué le garde des Sceaux Éric Moretti, en privé, il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel invalidera cet article, car dans un état de droit, comme il l'a dit, on juge des faits et pas des intentions. Tout ceci donc est très sérieux, mais une fois de plus, le fond du problème a été éludé. Ce problème qu'on a beaucoup de mal à voir en face en France, c'est celui de l'immigration, et plus précisément ici celui des demandeurs d'asile, déboutés ou non, qui dorment dans les rues, faute de solutions d'hébergement, parce que si ces migrants étaient correctement hébergés, si on ne les évacuait pas de leur campement sans leur trouver une solution d'hébergement, eh bien les policiers n'auraient pas à les déloger, qu'ils y mettent ou non les formes. Les mises en scène, les provocations ne trouveraient plus de figurants et finalement, ça nous éviterait ce sentiment de honte.
Bon, mais soyons honnêtes, Sylvain, on vous objectera que ces migrants, en fait, sont des clandestins qui devraient être expulsés, ni plus ni moins.
Alors, c'est faux, enfin, en tout cas, pour la plupart, hein, je ne suis pas allé regarder un par un, mais c'est faux car il semble que la plupart des migrants de la place de la République soient des Afghans, des Somaliens, des Érythréens ou des Soudanais, en vérité, surtout des Afghans. Mais en tout cas, ces quatre nationalités sont en principe censées profiter de la protection de l'asile parce que considérées comme en danger dans leur pays d'origine. Alors, le cas de l'Afghanistan est en train, semble-t-il, d'être réexaminé, ou va être réexaminé. Et ce serait un grand changement s'il était retiré de la liste, car c'est la première nationalité d'origine des migrants qui se trouvent actuellement en France. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on fera d'eux lorsqu'ils seront déboutés du droit d'asile et qu'ils rejoindront les Géorgiens, les Albanais, les Ivoiriens, puisque ce sont là les trois principales nationalités des déboutés. Si on n'arrive pas à renvoyer ces déboutés dans ces trois pays-là, alors je vous laisse imaginer les difficultés à venir avec l'Afghanistan. L'autre problème, c'est que chaque demandeur d'asile devrait être hébergé dans un centre d'urgence ou d'examen, et chaque bénéficiaire de l'asile devrait avoir une solution permanente d'hébergement. Ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de migrants qui ont obtenu l'asile qui sont encore aujourd'hui dans des centres d'urgence. Or, c'est actuellement le goulot d'étranglement. Alors qu'on nous annonce que la durée d'examen des dossiers ne doit pas dépasser 6 mois, qu'on veut absolument la réduire, savez-vous quelle est la durée moyenne du séjour en centre d'urgence ? 395 jours, c'est-à-dire plus d'un an. Et encore, il s'agit d'une moyenne. On trouve donc nécessairement dans ces centres des gens qui n'ont rien à y faire, dont le dossier est en examen, mais aussi beaucoup de bénéficiaires de l'asile dont on ne sait pas quoi faire. Les déboutés, eux, sont soit dans la nature, soit en rétention, et il y a peu de chances qu'ils soient sous les projecteurs.
Il n'empêche que le bon sens conduit à dire que nous ne pouvons pas continuer à accueillir autant de gens parce que nous n'avons pas les moyens de les insérer et même de les héberger.
Oui, il faut quand même préciser les choses. En 2019, un peu plus de 140 000 personnes ont demandé l'asile en France, un peu plus de 100 000 ont signé des contrats d'insertion républicaine et un peu moins de la moitié de ces 100 000 a été orientée vers une formation linguistique. À titre d'exemple, le regroupement familial, c'est-à-dire les gens qui viennent rejoindre des membres de leur famille qui sont déjà régulièrement en France, c'est 27 000 dossiers par an environ. Il y a donc aujourd'hui un vrai sujet avec l'asile. Quand on parle d'immigration et d'intégration, parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, il faut éviter deux travers. Le premier travers, c'est l'excès de naïveté, et le deuxième, c'est les amalgames du style « tous les migrants sont des délinquants qui n'ont rien à faire en France, suivez mon regard ». Le droit d'asile est une pierre angulaire de notre pays. Encore faut-il que nous ayons une vraie politique de l'asile, avec de vrais moyens, de préférence une politique européenne, puisqu'on peut circuler à peu près librement au sein de l'espace Schengen. Ça éviterait donc que des demandeurs d'asile déboutés dans un pays se baladent ensuite dans le reste de l'Europe et qu'au bout de 18 mois, ils puissent éventuellement refaire une demande d'asile dans un autre pays. Il faudrait aussi, en effet, revoir la liste des pays considérés comme sûrs. Et on peut peut-être pas encore dire aujourd'hui que tous les Afghans, par exemple, seraient en insécurité s'ils retournaient dans leur pays. On peut en douter, en tout cas. Didier Lesky, qui est le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, est peu suspect d'être perméable aux thèses du grand remplacement, reconnaît que l'intégration est un défi de plus en plus grand dans notre pays, tant les différences culturelles avec les pays d'origine des demandeurs d'asile se sont profondément creusées. C'est valable pour l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan évidemment, mais c'est aussi valable pour des pays qui étaient beaucoup plus proches culturellement, comme l'Algérie ou la Tunisie. On voit bien comment toute une immigration en provenance de ces pays s'est parfaitement intégrée en France dans ces 30-40 dernières années. Mais ceux qui arrivent aujourd'hui sont très différents, tant l'islamisme imprègne aujourd'hui ces sociétés. Voilà donc pour la naïveté. Mais il faut aussi être réaliste. L'Europe, dont la démographie est vieillissante, est une terre d'immigration. La situation difficile que nous traversons, le terrorisme, la Covid, va certainement encourager une réaction xénophobe. Mais sur le long terme, non seulement la vague d'immigration ne pourra pas être stoppée, mais nous aurons besoin de cette main-d'œuvre pour remplir toute une série de tâches que les autochtones ne peuvent pas ou ne veulent pas remplir. Il faut simplement apprendre à maîtriser le phénomène et ne pas laisser pourrir la situation comme on le fait en France, où nos gouvernants pensent, depuis des années, pas seulement le gouvernement actuel, qu'il faut laisser les migrants dans cette situation misérable pour dissuader les candidats au départ. C'est la fameuse théorie de l'appel d'air, une théorie complètement fumeuse, car le volume des demandeurs d'asile augmente de 10% par an environ. Et Dieu sait si la situation des migrants n'est pas vraiment enviable en France. La question de l'immigration, et encore une fois de l'intégration, a un volet social, un aspect sécuritaire. Il faut s'assurer que les candidats à l'asile s'engagent évidemment à intégrer les coutumes du pays d'accueil et à respecter ses lois. Mais il y a aussi un volet géopolitique qu'il faut négocier avec les pays d'origine des déboutés et des clandestins. Tout cela justifierait de créer un ministère de l'immigration, je l'ai toujours pensé, à condition évidemment de ne pas lui accoler, comme par le passé, l'identité nationale qui n'a rien à voir avec la question. Ne pas le faire, se désintéresser du problème, le laisser pourrir, surtout en période de crise économique, sociale, sanitaire, c'est laisser le terrain aux démagogues qui ont antenne ouverte à la télévision et à l'extrême droite. Laisser pourrir la situation, c'est courir le risque de laisser se propager un ressentiment xénophobe un peu comme dans les années 30. Déloger des migrants de leur camp de fortune sans leur proposer un hébergement, alors que les hôtels sont vides en ce moment, ne pas désengorger la région parisienne où sont concentrés plus de la moitié des demandeurs d'asile, est un signe que le gouvernement se lave les mains de ce problème qui est une bombe à retardement à tous les sens du terme.
Et oui, vous avez raison. Sylvain Attal, chaque semaine sur Radio Shalom pour tenter de comprendre comment va le monde. Merci Sylvain, bonsoir.
Bonsoir.